شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان.
علی زن حلقه اهل یقین است، مسیح و هادی دین مبین
است. On passe maintenant donc au stand. Alors, j'ai du mal à le dire, hein. C'est ondontologie, c'est bien ça, hein, d'accord. Donc, c'est la dentaire. Je connaissais pas ce mot, hein. C'est pas grave. On apprend beaucoup de choses, donc c'est très bien. Donc, voilà, maintenant on va passer dans ce stand-là. Alors, je vais juste demander, s'il vous plaît, de vous présenter brièvement, donc votre nom, votre prénom, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là dans ce stand, et quelles ont été les questions qui vous ont été posées, justement, durant toute cette journée.
Donc, je m'appelle Sarah Nassor. Je suis en quatrième année de dentaire. Donc. On m'a demandé le parcours, comment faire pour devenir dentiste. On m'a demandé pourquoi j'ai choisi dentaire, est-ce que c'était mon premier choix. Et souvent, en fait, les gens veulent faire médecine et dentaire, ça devient un second choix. Donc on s'interroge un peu. Puis il y a pas mal de personnes qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire odontologie. Donc voilà, ça veut dire dentaire. Et donc voilà.
Alors, salam alaikum, je m'appelle Junaid Mollou, donc je suis dentiste implantologue au Chesnay. J'ai mon cabinet depuis quelques années maintenant. Donc, je suis là aujourd'hui pour donner un peu des conseils à nos étudiants, nos futurs étudiants qui veulent un peu savoir en quelle voie se lancer. Moi, j'ai eu un parcours assez atypique puisque j'ai étudié à l'étranger dans un pays européen qui est la Lituanie. J'ai étudié en anglais, donc bon, je suis là pour apporter un petit peu mon expérience personnelle et professionnelle et bien sûr pour aider nos futurs dentistes dans leur carrière.
Et depuis tout à l'heure, on est un peu en train de jauger l'influence qu'il y a eu dans chaque stand. C'est un peu la concurrence. Mais donc, votre stand, est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes? Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai attrait de la part des jeunes de la communauté pour l'odontologie?
Bah, moi, je pense que de toute façon, les gens ils sont déjà attirés par la médecine. Ensuite, dentaire, comme elle vous l'a dit précédemment, c'est un peu le second choix quand on ne s'y connaît pas. Mais à partir du moment où on s'y connaît un tout petit peu et qu'on connaît les personnes qui sont dans ce milieu, ça fait changer un peu leur vision des choses et tout d'un coup, ils sont un peu plus intéressés par dentaire. Donc ça dépend de ce qu'on veut, des aspects quoi. Hein. Financier évidemment, bon, bah, dès qu'ils parlent financier, ils pensent que l'odontologie c'est le mieux. Et ça, c'est à voir hein, parce qu'on a beaucoup d'impôts à payer aussi.
Concernant l'influence, non, oui, on n'a pas eu énormément de personnes, mais moi, on me demandait pourquoi j'avais pris cette voie. Et finalement, moi, c'était la longueur des études. Et pour une femme, je trouve que c'est vraiment avantageux par rapport à médecine. Moi, j'ai choisi dentaire. J'ai eu médecine et j'ai choisi dentaire. Et voilà, je trouvais que les responsabilités étaient moins nombreuses et que c'était très intéressant parce qu'on pouvait se rendre utile quand même et qu'on avait... moins d'années d'études devant nous. Donc, voilà. Moi, je trouvais que c'était plus intéressant.
Est-ce qu'on peut dire en résumé combien de nombre d'années d'études ça a pris le bac et
alors,
tout ça,
pour être un bon dentiste? Oui, il faudrait avoir un bac S. Ensuite, on passe le concours de première année, donc la PASS, qui est commun avec médecine. Et ensuite, on a encore 5 années. Donc en tout, en gros, on a 6 années d'études après le bac. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore des débouchés ici en tant que dentiste en France éventuellement?
Oui, ça c'est sûr, hein. Parce que il n'y a pas de chômage.
Nous sommes dans une génération où tous les enfants du baby-boom, de l'après-guerre, sont en train de prendre leur retraite. Notre population est en train de vieillir. On a de plus en plus besoin de médecins et de dentistes et de professions paramédicales, donc c'est quelque chose qui marchera toujours. On ouvre un endroit, on attend quelques semaines et on sera plein.
Donc vous conseillez à prendre la filière médicale?
Si on a le sacrifice de vouloir vraiment travailler sans arrêt, qu'on a un niveau minimum, bien sûr, c'est une belle carrière.
Et alors je sais plus, non. C'est bon, vous avez été complet, très fort. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va demander commerce. Donc c'est commerce dans le sens large du terme, puisque toi, tu représentes l'école de commerce, c'est ça, l'école de commerce. Donc voilà, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter en quelques mots, même si je pense qu'on se connaît un peu, mais tu te présentes juste en quelques mots et tu me dis pourquoi tu es là aujourd'hui à ce stand.
Alors, salam alaikum. Donc moi, c'est Zamir Asakali. Je suis présent ici. Déjà, je fais partie des organisateurs de ce Carrefour des métiers. Je suis présent ici parce qu'effectivement, j'ai un cursus très, très spécialisé dans le commerce. J'ai commencé par un BTS en commerce international avec une grande expérience à l'étranger, avec des stages et des missions à l'étranger. Et après ce BTS, j'ai intégré une école de commerce. Et cette école de commerce m'a permis vraiment de découvrir le monde des entreprises à tous les niveaux, c'est-à-dire j'ai touché à tous les secteurs au sein d'une entreprise. Malgré bien sûr une expérience en commerce international, j'ai fait de la compta, j'ai fait de la communication, du marketing, des ressources humaines, parce qu'effectivement dans une école de commerce on touche un peu à tout. Et aujourd'hui je suis là, c'est surtout pour appuyer un argument fort, c'est que dans mon cursus j'ai remarqué l'école de commerce, aujourd'hui c'est vaste, on fait quasiment tout. Une école de commerce c'est assez cher. Mais le plus important dans une école de commerce, c'est le réseau des anciens élèves, le réseau des entreprises qui tournent autour de l'école de commerce, mais aussi, pour appuyer un argument fort, c'est l'alternance. Moi, j'ai fait mon école de commerce mes deux dernières années en alternance, et j'ai remarqué qu'effectivement, après avoir fait de l'alternance, les entreprises sont beaucoup plus ouvertes à nous accueillir, à faire des entretiens parce qu'on a de l'expérience, on est jeune, on sort d'école. Donc c'est surtout pour appuyer cet argument, il faut faire une école de commerce, mais pas non plus faire une école de commerce où on paye entre 10 et 15 000 euros l'année pour s'amuser, pour être dans une école où il y a de l'ambiance, etc. Mais c'est surtout, le but c'est de se rapprocher des entreprises, se rapprocher des grandes entreprises du réseau de cette école de commerce et d'avancer pour trouver un emploi facilement après.
Alors Zamir, il me semble que toi tu es donc de l'école supérieure du commerce extérieur, c'est ça, donc l'ESCE, qui est situé où maintenant déjà à Bir Hakeim, je pense.
Elle est à Bir Hakeim.
Moi je suis un ancien de la PSB et je sais que la PSB, Paris School of Business, et dans mon école il y avait un concours en post-bac, concours parallèle en quatrième année pour entrer en master 1. Et il y avait aussi également un concours pour entrer en troisième année. Donc comment ça se passe à l'ESCE, par quel concours on doit passer donc pour intégrer cette école?
Alors à l'ESCE, déjà rapidement pour une présentation de l'ESCE, c'est une école spécialisée, bien sûr c'est une école de commerce comme toutes les écoles de commerce, mais c'est plus axé vers l'international. Donc il donne un poids un peu plus important aux échanges universitaires, aux stages à l'étranger, il y a des stages vraiment obligatoires à l'étranger. Pour intégrer cette école, c'est une école post-bac, donc on peut intégrer après le bac, passer des concours post-bac avec des concours écrits et aussi oral. Moi, par rapport à mon cas, j'ai intégré cette école après le BTS, donc il y a un concours qui est uniquement réservé pour les personnes qui détiennent un bac plus 2. Donc on peut l'intégrer, c'est d'abord par dossier, sélection de dossier après le BTS, un concours écrit. Donc là, à l'écrit, il y a quatre thèmes, culture générale, dissertation sur un thème, un cas pratique d'une entreprise à l'international, l'anglais, parce que c'est une école internationale, donc les langues sont vachement importantes, l'anglais et l'espagnol. Après avoir effectué cette partie-là, il y a une sélection. Donc je me rappelle, à mon époque, on était 50 à passer ce concours, il y avait 15 places. Parce que bien sûr c'est une école post-bac, donc il y a moins de place pour les personnes qui intègrent le BTS. 15 places, une fois que la partie écrite s'est terminée, il y a la partie orale. Donc la partie orale, il y a trois phases, culture générale et motivation, cas pratique en anglais et cas pratique en espagnol. Et après ça, on a la sélection définitive dans l'école de commerce.
Très bien, et j'ai une dernière question. Alors en fait, toi tu es comme moi parce que tu as intégré donc l'école de commerce au bout de 2 ans. Et après un BTS, moi je l'ai intégré au bout de 3 ans, donc après une licence à la fac. Et en fait, la question qui revient souvent pour les jeunes qui sont en train de passer leur bac, c'est est-ce qu'il serait préférable d'intégrer une école de commerce directement en post-bac ou après une prépa ou après une licence ou autre ? Et pourquoi ?
Alors moi, je serais plus d'avis, moi qui ai effectué un BTS avant, qui est entré en école de commerce au bout de pour faire la troisième année, aujourd'hui, je pourrais dire qu'une école de commerce, bien sûr, déjà au niveau financier, c'est cher, faut assumer. Si on rentre après le bac, c'est assumer 5 ans en école de commerce, donc c'est 5 fois 10 000 euros, donc assurer 50 000 euros, ce qui est quand même une somme assez conséquente. Pour les jeunes étudiants, ce que je conseillerais, c'est d'intégrer une école de commerce comme Asnen après la troisième année, c'est-à-dire de faire 3 ans, soit un BTS et une licence, soit faire 3 ans à la fac et ensuite rentrer pour le Master 1 en école de commerce, parce que le Master 1 nous donne directement le choix sur la spécialisation qu'on souhaite faire et nous donne 2 ans pour se créer un réseau. Donc aujourd'hui c'est important de faire un BTS, de se spécialiser sur un métier pour savoir concrètement ce qu'on souhaite faire et ensuite se donner toutes les chances d'intégrer une école de commerce pour se créer un réseau, continuer à former sur notre spécialisation, mais surtout c'est pour développer notre réseau et grâce à ce réseau de commencer à faire des stages et d'intégrer des entreprises.
Zamir qui est spécialisé dans le commerce externe, dans le commerce international, on a beaucoup parlé de pays émergents. On parle beaucoup d'expatriation, notamment en Inde. Donc toi, qu'est-ce que tu as à nous conseiller par rapport à ça ? Quelle est la situation du pays ? Est-ce que économiquement, est-ce que c'est un pays où on peut faire du business et...
En termes d'international, aujourd'hui, c'est nous, étudiants ici en France, on a plus de facilité à aller à l'international, mais... Je dirais plus qu'on aura une certaine facilité d'aller dans les pays européens, c'est-à-dire en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, on aura beaucoup plus de facilité du fait de la proximité qu'on a ici en France et également au niveau financier parce que c'est moins cher. Mais maintenant, moi, j'avais pris la décision personnellement d'effectuer un stage en Inde. J'ai passé 4 mois en Inde, à New Delhi exactement. Pourquoi ? Parce que nous, Indiens de Madagascar, nous, Khwaja Shiaish Nashri, nous avons des origines indiennes. Je me suis dit, je suis dans un secteur international. Je me suis dit, pour moi, ce serait vraiment très intéressant d'aller en Inde pour découvrir mes racines, mais aussi pour voir comment ce pays évolue et comment ce pays aujourd'hui se positionne par rapport à tout le reste des autres pays. Je dirais plutôt que mon expérience en Inde a été une expérience la plus enrichissante de mon cursus universitaire parce que j'ai effectué un stage dans une entreprise française basée en Inde avec des patrons français mais des salariés indiens. Et j'ai tout de suite eu cette impression d'être totalement intégré en Inde. Pourquoi ? Déjà de par notre personnalité, de par nos cultures. On a un accès beaucoup plus facile. Et l'Inde est un pays aujourd'hui qui avance de plus en plus dans le monde. Déjà au niveau, rien qu'au niveau de la population. Aujourd'hui l'Inde c'est quasiment 1 milliard d'habitants. On a une forte demande interne en Inde. Donc la demande bien sûr peut être en termes de produits, de la production indienne. Aujourd'hui les produits sont de plus en plus exportés d'Inde. Et également... Il est possible de pouvoir aujourd'hui ouvrir une société en Inde dans l'import-export parce que l'Inde produit de plus en plus de produits de plus en plus. L'Inde a de plus en plus de personnes qui font des études, qui avancent dans la vie, mais aussi je pourrais dire que on a tendance à penser que l'Inde est un pays pauvre. On a tendance à penser, on le voit très souvent dans l'actualité, même dans les films, énormément de pauvres. Mais l'Inde est de plus en plus en train de se développer. Et je peux vous dire que j'ai eu des relations là-bas, des étudiants comme moi là-bas, qui étaient beaucoup plus évolués que moi et qui sont prêts à aller se battre pour leur pays pour que l'Inde avance. Et aujourd'hui, je dirais parmi les pays où on aura tendance à... Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les étudiants pensent que les meilleurs pays où on peut réussir, on parle du rêve américain, les États-Unis, mais personnellement, moi, je pense que les pays où il est important d'y aller pour acquérir plus d'expérience qu'aux États-Unis, c'est l'Inde, les pays d'Asie, Singapour, Thaïlande, là-bas, le métier s'apprend facilement, il y a moins de réglementation, il y a moins de blocage, et le Brésil, on peut parler du Brésil également, qui est en ce moment un Eldorado pour les entreprises françaises, et également l'Afrique du Sud, qui est un pays qui évolue de plus en plus. Alors pour conclure mon intervention, je vais décrire mon parcours professionnel. Donc moi, j'ai effectué mon parcours du baccalauréat à l'île de la Réunion. J'ai obtenu un baccalauréat économique et social à l'île de la Réunion avec une mention assez bien au lycée Lecomte de Lille. Après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai décidé de venir en France pour m'ouvrir. Parce que bien sûr, la Réunion reste un pays assez fermé. Il faut s'ouvrir, avoir un esprit beaucoup plus ouvert pour savoir réellement qu'est-ce qu'on peut faire plus tard. Ensuite, j'ai fait un BTS en commerce international pendant 2 ans. Donc le BTS en commerce international m'a justement m'a permis d'aller à l'étranger, d'aller en Inde pour apprendre la vie ailleurs, la culture à l'étranger. Après le BTS en commerce international, j'ai intégré une école de commerce, l'ESCE, l'école supérieure du commerce extérieur. J'ai effectué ma licence, donc un bac plus 3 en initial au sein de l'école de commerce. Pour mon bac plus 4 et bac plus 5, j'ai décidé d'aller vers de l'alternance, donc c'est-à-dire de faire en même temps les études pour obtenir mon diplôme, donc atteindre mon objectif, et bien sûr rendre fiers mes parents par rapport à ça, mais aussi commencer à acquérir une certaine expérience en entreprise pour avoir cette facilité d'avoir un emploi après mes études. Donc pendant 2 ans, j'ai fait une année chez Microsoft en tant que responsable commercial, donc dans le but d'apprendre le métier de la vente à l'international. Ensuite, pendant une année, j'ai été chez un éditeur de logiciels en crédit management. Donc là, mon objectif, c'était de pouvoir vendre ce logiciel auprès des sociétés à l'international. Et j'ai été débauché avant de mes études par Xerox, qui est aujourd'hui le leader mondial dans les solutions d'impression. J'ai finalisé mon diplôme chez eux, j'ai été en alternance chez eux et aujourd'hui, ils m'ont gardé, je suis en poste, ça fait 2 ans que je suis en poste chez eux en tant que responsable commercial dans, bien sûr, les systèmes d'impression. Je passe mes plus grands salams à toute ma famille à l'île de la Réunion. Et puis, bon, j'espère qu'en voyant cette vidéo, ils seront fiers des jeunes qui s'investissent et qui se détachent de ses parents pour venir étudier. Mais effectivement, on voit que cet effort permet de réussir dans la vie professionnelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Oui, salam alaikum, Marine Amtsesh ou El Benzour. Mais Adia m'est présenté connaître c'est un stand métier d'opticien. Et que les métiers d'opticien, toi, pour les modèles de Kate, c'est Naïoul ou Tasma Bonaranou, Tasma Ventuanou, avec Atska, avec Inknevisite et Kolwanou. Toi, Adia, Moksetse, qui après Adna Zavan, on est décalé, qui a Kam Soutse, qui vérite Natalite, à Boukanou Kam, qui vérite Natse, qui vérite Nakam Kogou. Et à nos stands, nos objectifs. Donc, après ça, après ça, je suis un opticien, opticienne, zadzate. Après, grand stand, je suis un opticien, après ça, je suis un opticien, je suis un opticien, je suis un opticien.
Salam alaikum, donc moi c'est Dina Modandrina, j'ai fait des études donc, d'optique et après j'ai décidé de me spécialiser en optométrie. Donc j'ai fait une licence d'optométrie et ensuite un master d'optométrie. Donc l'optométrie c'est comme un ophtalmo, sauf que je ne fais pas de chirurgie. Donc je fais tout ce qui est adaptation à lentilles de contact, tout ce qui est examen de vue en fonction des plaintes et aussi dépistage de maladies telles que cataractes, sécheresse oculaire. Voilà. Et tout simplement, donc c'est une licence et puis un master. Après il faut être titulaire d'un diplôme d'opticien pour pouvoir faire la formation d'optométrie. Donc au niveau des débouchés, on peut travailler donc en hôpital ou en cabinet. On peut travailler dans la recherche, on peut aussi être enseignant ou être tout simplement un opticien spécialisé, travailler dans un magasin qui fait des examens visuels et des adaptations en lentilles.
Donc l'ophtalmologie, l'optique, est-ce que c'est une méthode à venir ?
Complètement, parce que comme vous voyez, on a beaucoup d'attentes pour donc, tout ce qui est examen visuel, pour des petits détails comme le renouvellement de lunettes. Donc au moins l'optométriste est là, et l'opticien aussi d'ailleurs, pour justement aider l'ophtalmo dans tout ce qui est examen de vue simple en fait, sans pathologie.
Par rapport au métier médical, est-ce que l'optique c'est un métier où on peut réussir ?
Bah, l'optique, c'est un métier, oui, on peut réussir, et puis c'est un métier qui est un polyvalent. Vous êtes, il y a un peu de santé, il y a tout ce qui est commerce, il y a de la gestion. Donc c'est un métier qui est vraiment polyvalent, donc il y a tout ce qui est communication, gestion. Et il y a plein de débouchés, il n'y a pas que l'optométrie, il y a aussi audioprothésiste, orthoptiste. On peut faire plein de choses après l'optique, on peut même faire du commerce, rentrer en école de commerce. Donc, oui.
Juste ma dernière question, ça concerne en ce moment, nous sommes très attachés aux écrans télévision, aux tablettes, aux iPhone, à tout ce qui est téléphone connecté. Donc, quel conseil on peut avoir pour qu'on évite un peu tout ce qui est le mot du siècle, qui est la maladie des yeux?
Alors déjà, tout ce qui est donc tablette, lecture, tenir à 40 cm, pas trop près, éviter tout ce qui est smartphone le soir avant de se coucher. Quand on est sur un ordinateur, sur un écran, c'est bien de faire des pauses visuelles toutes les 15 minutes. Donc ce que vous faites, c'est que vous regardez au loin. Donc par exemple, vous regardez par la fenêtre, vous voyez un bâtiment, vous attendez que la vision devienne nette pour revenir sur votre travail, sur votre écran. Donc il faut vraiment faire des pauses visuelles souvent, parce qu'on se rend compte que c'est le fait d'être trop sur écran, c'est ça qui entraîne des problèmes visuels tels que la myopie. C'est vraiment le fait d'être tout le temps auprès, à lire, à être sur smartphone, tablette. Donc vraiment privilégier les activités en extérieur et pas que l'intérieur.
Donc là, avant de quitter le stand optique, je vais demander une dernière question à Joël Bay. En ce moment, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de maladies des yeux. Est-ce que la recherche a trouvé des nouvelles solutions pour avoir une bonne vision?
Oui, donc merci pour cette question. Effectivement, hein, l'avancée au niveau des verbes avance de mieux en mieux. On arrive à trouver des solutions qui permettent de réduire de mieux en mieux tout ce qui est problème visuel, étroitement lié à tout ce qui est fatigue visuelle. Et aujourd'hui, effectivement, on a une vidéo qui passe juste derrière, qui parle des nouvelles technologies, des nouvelles avancées en termes de verres optiques, qui permettent effectivement, d'une part, de soulager la vision, d'avoir moins de fatigue visuelle, notamment pour tout ce qui est lié à l'utilisation des smartphones, des iPads, des outils digitaux. Les études montrent clairement qu'il y a un impact sur la vision, sur la qualité de la vision sur tout ce qui est fatigue visuelle. Et effectivement, les verres d'aujourd'hui ne font plus que corriger, mais permettent aussi derrière d'avoir une meilleure protection contre la lumière bleue et derrière moins de fatigue visuelle. Donc effectivement, si vous avez des besoins aujourd'hui, que ce soit une mauvaise vision ou une fatigue qui est liée à l'utilisation de ces nouveaux outils digitaux, n'hésitez pas, notre métier est fait pour. Et en tout cas, on est là pour vous renseigner.